Alors David Collin et Daniel Deroulet seront tous deux au foyer du théâtre Olympe de Gouges à 19h pour une rencontre à trois avec Christian Garcin. Cette rencontre est intitulée « Les confins ». Il y sera question de voyage sous plusieurs formes. David Collin y sera présent un peu plus tôt que ses deux acolytes puisque dès 18h15, il présentera la collection 80 mondes qu'il dirige aux éditions La Bocconnière et dans laquelle Christian Garcin a publié l'ouvrage « Le Lausanne-Moscou-Pékin ». C'est un homme de radio qui produit de nombreuses émissions, documentaires sonores, émissions d'entretien pour la RTS. Daniel Deroulet aime la course à pied, a fait des études d'architecture, est informaticien, il a travaillé dans des centrales nucléaires et devinez de quoi parlent ses ouvrages. Messieurs, bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Alors, qu'est-ce qui vous relie l'un à l'autre, mis à part que vous êtes tous les deux écrivains suisses francophones ?
Qu'est-ce qui nous relie ? Déjà, on se connaît et on est amis, donc ouais. C'est déjà une première chose. Et on participe aussi à des aventures communes, de temps en temps, comme des revues. Et je pense qu'on a aussi une idée, certainement, du voyage qui n'est pas trop éloigné l'une de l'autre. On a quand même pas mal d'affinités, tout simplement. Mmh. C'est pas par hasard qu'on s'entend bien, je pense.
Ouais, ouais, c'est vrai, on s'entend.
on a des accents différents. Lui, il est d'un bout de la Suisse, moi de l'autre, alors ça va.
Ah ouais.
Ouais.
Il vous a interviewé pour la RTS ?
Ça m'est arrivé, oui. Ouais. Il est assez bon dans les interviews. Hein.
Ah, il m'a mis la pression, ouais. Hein, c'est sûr.
Ouais. Ouais, pas du tout. J'ai pas de casque en plus, donc je m'entends pas, donc je me sens à peine à la radio.
Ouais. David Collin, l'écriture radiophonique est-elle en rapport avec l'écriture de romans ?
Alors, d'abord, je n'écris pas que des romans et j'écris tout court. C'est pas pour vous reprendre que je dis ça, mais c'est-à-dire que tout est un peu écriture. Et finalement, là, pour moi, je considère souvent qu'en radio, j'écris la radio aussi. Mmh. Enfin, je parle de ça pour le documentaire, par exemple, ou même la fiction auquel je mets ma plume de temps en temps à contribution, ou bien simplement concevoir la radio comme une sorte d'écriture avec les sons, avec les bruits, avec les paroles, avec tout ce qu'on peut tisser dans une émission, que ce soit une émission comme ça ou une autre type d'émission.
On crée des images à la radio dans l'esprit des gens. Est-ce qu'on crée des images aussi quand on écrit un roman, un ouvrage, un récit ?
Ben bien sûr, c'est peut-être ce qui effectivement rapproche aussi la radio de l'écriture. Chacun peut se faire le film à chez soi ou dans une salle ou à n'importe quel moment en lisant un livre ou en écoutant une émission, comme il n'y a pas de décor imposé. Et j'espère qu'il n'y en aura pas trop à l'avenir, parce qu'on a tendance à mettre des images un peu partout maintenant, et notamment à la radio. Et ben justement, ça donne la possibilité à chacun de faire son propre Hollywood, ou n'importe quoi, ou n'importe quel décor et imaginaire qui peut se superposer à la lecture, ou réinvestir finalement ce qu'on leur propose.
En matière de radio, vous travaillez des documents sonores très réalisés, très poussés, avec beaucoup de sons, de mélanges. Est-ce que votre écriture est reliée à ce genre de travail-là aussi ?
Alors, oui, si on considère ce que vous avez dit comme l'art du montage, oui. C'est-à-dire que autant l'écriture, je crois, en tout cas comme je l'entreprends, mais je pense Daniel aussi, dans un certain sens, enfin même sans doute, c'est une sorte de montage. Faire une revue, puisque c'est aussi quelque chose qui nous relie, c'est aussi faire un montage. Et j'ai remarqué, finalement, il y a peu, effectivement, que cette notion du montage était dans tout mon travail, y compris, évidemment, radiophonique. Ça ne veut pas dire forcément mettre beaucoup de sons, beaucoup de choses, mais ça veut dire être à l'écoute et essayer de rapprocher des éléments qui pourraient paraître épars, de les faire se télescoper un peu, de créer des ellipses et des silences aussi, parfois.
Important, le silence, en radio. Daniel, le rythme de la course à pied... Est-il en relation avec le rythme de l'écriture ?
Alors oui, ça m'est arrivé que le premier livre, enfin un premier grand roman que j'avais fait, donc un long roman, qui s'appelait La Ligne Bleue et qui est l'histoire du marathon de New York, j'avais pensé à qu'est-ce que c'est le souffle du marathonien. Et en fait, il expire trois fois et il inspire une fois. Donc c'est un rythme à quatre. Et j'avais décidé qu'il n'y aurait pas de mots, qu'il n'y aurait plus de quatre syllabes dans le texte. Et puis, justement, même le titre, c'est « La ligne bleue ». Et le type qui reprend son souffle. Et c'est vrai que, bon, moi je dis c'est le même élan, quoi. Il y a un élan de l'écriture, puis il y a un élan de la longue course, quoi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'effort, sauf l'endurance, quoi, mais il n'y a pas de sprint, il n'y a pas de... Et peut-être que dans l'écriture, de temps en temps, il faut changer de rythme, quoi. Ouais. Ça c'est vrai.
Est-ce qu'il faut arriver à trouver le second souffle? Est-ce qu'à un moment, on arrive à un passage où c'est difficile, c'est laborieux, et puis une fois qu'on a dépassé un cap...
Oui, il y a quelque chose de très... mythique dans le marathon, qu'on appelle le mur des 35 kilomètres. C'est-à-dire qu'on pense, enfin, ça a été mesuré plusieurs fois, que les capacités respiratoires et puis une série de nutrition qu'on a à l'intérieur du corps, elles se dépensent, elles se brûlent. Au bout de 35 kilomètres, on a tout brûlé. Et après, il faut aller chercher le reste, quoi. Et je pense dans les livres, oui, ça arrive aussi qu'on a l'impression d'avoir tout écrit. Et puis, on nous dit, oui, mais il y a quelque chose qui manque encore. Et il faut aller chercher le reste, quoi. Il faut aller chercher le souffle.
Alors, depuis de nombreuses années, vous écrivez sur le nucléaire. Vous avez travaillé dans le nucléaire. Et vous faites toute une série sur la vie, finalement, du nucléaire.
J'ai fait, oui, 10 romans. La série est finie. Elle commence à Hiroshima, enfin, à la préparation de la bombe d'Hiroshima, qui est une affaire très, assez terrible de la Deuxième Guerre mondiale, qui est la première utilisation du nucléaire, qui est une utilisation militaire. Et ça va jusqu'à Fukushima, qui est le dernier livre. En fait, là, j'ai été rattrapé par l'actualité parce que je pensais pas que le dernier livre serait sur Fukushima. Et puis, il y a, c'est pas seulement le nucléaire militaire, mais je me suis aperçu que même ce qu'on appelle le nucléaire civil, il est en fait militaire, quoi. C'est-à-dire que les pays qui peuvent se retirer du nucléaire aujourd'hui sont des pays qui n'ont pas la bombe. L'Allemagne n'a pas besoin de ses centrales. La France, en revanche, a besoin de ses centrales pour fabriquer ses bombes.
C'est rassurant ce que vous nous dites. Oui, pardon.
C'est aussi une chose qu'on a en commun, en fait. L'intérêt, c'est peut-être un grand mot, mais pour les dégâts plutôt, les désastres du nucléaire, parce qu'on en a souvent parlé ensemble, et on a, alors moi pas tellement dans des livres, dans des textes peut-être, mais aussi à la radio, j'ai été à la Fukushima l'année passée. Et voilà, c'est aussi quelque chose qui est en commun, ce souci, de manière différente et par des chemins différents. Mais...
Avec les auteurs qui étaient là hier, on parlait du militantisme au travers de l'écriture et des livres, et des ouvrages. Est-ce que c'est votre cas? Est-ce que c'est une façon aussi de militer pour vous, l'écriture?
Je peux commencer là?
Vas-y, vas-y.
Non, je suis souvent accusé d'être un auteur politique. Alors oui, toi, c'est engagé, etc. Et je dois toujours me défendre. Parce que je pense qu'en fait, l'écriture, non, au contraire, c'est un dégagement, l'écriture, c'est une distance. Et que confondre le militantisme et l'écriture, c'est confondre la publicité et le roman, quoi. C'est-à-dire qu'il me semble que d'une certaine manière, on écrit contre un certain état du monde. Et on n'écrit pas pour. Enfin, il peut y avoir des moments où on est emporté par un certain lyrisme, mais en gros, pour moi, écrire, c'est dire on n'est pas de ce côté-là du monde qui est le monde de la publicité ou le monde de la propagande. On est dans un autre type. Et donc, ça peut pas... Cette idée qu'il y a eu de l'engagement peut plus se faire la même chose. Au contraire, il faut s'engager à se désengager. Quoi. C'est ça qui est le plus difficile pour quelqu'un comme moi ou comme d'autres qui ont fait... qui ont eu une activité politique à laquelle ils ont donné quelques années de leur jeunesse. Ouais.
Daniel Deroulet.
David Collin, du
Pardon,
coup.
Pardon, excusez-moi.
Alors, je suis content que tu aies commencé, c'est vrai, c'est une bonne idée. Je dirais que pour compléter, ou à mon avis, ce qu'on confond aussi souvent, c'est la politique et le politique. Et peut-être que, je dirais, la littérature ou même la poésie peuvent être plus tirées du côté du politique ou un souci des choses et de la vie, etc. Et peut-être une attention particulière, une observation des choses. Et d'autre part, la question de la propagande aussi, c'est quelque chose qui m'intéresse, et notamment à travers la langue, évidemment, les mots, l'usage des mots. Et on est plutôt attentif à ce côté-là. Et si on commence à faire du marketing, alors c'est que là, il y a une confusion de l'usage des mots et de l'attention, peut-être, de ce que peut faire un écrivain à partir et avec le langage. Et ce qu'on peut-être qu'on lui demande, ou ce qu'on aimerait peut-être aussi qu'un écrivain soit capable de faire, c'est-à-dire traduire aussi sur les murs, partout, dans les journaux, quelque chose qui est en train de se jouer, quoi, ou qui pourrait être inquiétant, plus ou moins inquiétant, qu'il est toujours un peu.
Vous éditez aussi, ça c'est encore un autre travail.
C'est des choses qui arrivent. Oui, ça m'a toujours intéressé et je trouve que c'est aussi intéressant que ça soit de temps en temps des écrivains ou des gens qui sont liés à l'écriture ou par différents biais qui s'y intéressent. Bon, c'est souvent le cas d'ailleurs, c'est arrivé en tout cas. Et puis j'avais ce fantasme peut-être. Alors ça se passe à travers les revues depuis un certain temps. Et puis il y a une collection que connaît aussi Daniel qui était à Genève sur des thèmes justement qui peuvent être par rapport à la propagande ou au langage, c'était imprescriptible, qui essayait de travailler sur différents plans, romans, essais et autres sur les crimes contre l'humanité et les génocides. Et puis plus récemment, je vais en parler tout à l'heure, la collection 80 Mondes, mmh. À la Baconnière. Éditeur historique, on peut dire, oui, à Genève, qui nous est aussi cher et qui était une manière vraiment de collectionner ou d'ouvrir une collection qui soit proche de moi et des auteurs que j'aime bien. Et de manière très lente aussi, on fait un livre par an, donc c'est pas, c'est plutôt petit à petit constituer quelque chose, un réseau, sans obligation et sans caractérisation stricte du texte. C'est pas forcément un roman, ça peut être un journal, ça peut être des chroniques, ça peut avoir une certaine liberté.
Et donc tout à l'heure, vous serez avec Christian Garcin à partir de 19h, et justement, vous l'éditez, Christian Garcin, dans 80 Mondes, c'est ça ?
Oui, alors à 18h15 déjà, dans le même lieu, on parlera avec Christian de ce livre qu'on a édité dans la collection 80 Mondes, qui est Lausanne, Moscou, Pékin, qui justement une série de chroniques sur un voyage en Transsibérien que nous avons fait. Un autre lieu, encore en commun avec Daniel. C'était à l'occasion des 100 ans de la prose du Transsibérien de Blaise Cendrars. On est parti dans une aventure folle, radiophonique et littéraire. Et j'avais demandé à Christian d'écrire pendant le voyage des chroniques qu'on enregistrait pendant le voyage aussi, qui faisaient partie du projet radiophonique, qu'on montait petit à petit. On a fait 8 heures d'émission en tout. Et donc la première partie, les 4 heures, on l'a montée dans le train. Et ensuite, on a finalisé les 2 autres heures en arrivant. Et puis voilà, il y a d'autres livres dans... Enfin, après, l'idée, c'était de les publier dans cette collection qui venait de naître, ou quasiment, et en faisant un petit livre voilà, qui fasse le lien aussi, parce que c'est aussi une collection, c'est aussi établir des liens.
Et donc ça, c'est 18h15.
Oui.
Et 19h, vous serez donc tous les trois pour cette rencontre, Les Confins. Là aussi, donc toujours question de voyage, mais aussi un voyage intérieur, si j'ai bien compris.
Oui, je pense que ce qui nous intéresse tous, c'est quand même la rencontre du voyage intérieur et du voyage géographique, et que comment les deux sont finalement, dans les voyages qui nous intéressent, c'est deux chemins parallèles, on voyage à l'intérieur de soi aussi, on rencontre des gens, mais on construit quelque chose, et le temps même du voyage est fait partie de cette construction, c'est pas forcément arriver, mais faire aussi le chemin d'eux. Et des auteurs qui nous sont proches aussi ou qui nous ont inspirés, on l'a parfois oublié, je sais pas, Nicolas Bouvier, on parle toujours de lui comme écrivain voyageur, un mot qu'on déteste, nous, écrivain voyageur, une étiquette marketing de propagande, mais par contre, on peut rappeler d'abord que c'est un vrai écrivain et ensuite c'est quelqu'un qui était vraiment aussi dans le voyage intérieur pour le coup, dans le poisson scorpion quand il est coincé au Sri Lanka, qu'il est malade, il y a vraiment un voyage intérieur presque dans l'immobilité qui s'établit.
Un dernier mot, avant que je vous laisse partir.
Non, mais puisque vous parlez des confins, pour moi, c'est aussi des vrais confins. C'est-à-dire, j'essaye de faire le tour des lacs frontaliers du monde. Donc, il y a 55 grands lacs qui sont partagés entre deux ou plusieurs pays. Vous pensez, par exemple, au lac Léman, mais vous pouvez penser au Titicaca ou au grand lac africain. Au Grand Lac d'Amérique du Nord. Et pour moi, ce qui m'intéresse, c'est justement qu'est-ce que ça fait quand il y a une frontière liquide, un confin liquide, et qu'il y a des gens qui habitent d'un côté, il y a des gens qui habitent de l'autre, et ils ne sont pas du même pays. Quoi.
Vous en parlerez tout à l'heure, à partir de 19h.
C'est possible, avec Christian Garcin. Pourquoi pas.
Eh bien, rendez-vous dans le foyer, donc, qui est avec un petit bistrot, enfin c'est un endroit très convivial. Vous y avez été déjà ?
Non.
Ah bah vous allez voir, c'est très sympa, c'est très cocooning, on va dire.
On se réjouit.
Vous allez être bien là-bas. Je vous laisse y aller, David Collin et Daniel Deroulet. Merci d'être passé dans cette émission.
Merci.
Au plaisir. Vous.